moi j'ai. Vous savez que il n'y a rien de plus courant, malheureusement, que le découragement. Qui n'a jamais, même si vous, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes même très jeune, surtout par rapport à moi, mais vous savez qu'il n'y a pas besoin d'être vieux pour. Pas je suis vieux, attention. On a très avancé en âge pour savoir ce que c'est que le découragement.
Des prodiges et divers miracles et par les dons
de Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Nous voyons que les Hébreux
ont reçu le message de l'Évangile,
que ce message avait été
et qu'ensuite ce message avait été confirmé par des actes
puissants, des miracles,
des prodiges, des manifestations puissantes de l'Esprit de Dieu. Mais nous lisons
plus loin, notamment au chapitre 10, quelque chose encore de plus surprenant. Nous disons que lorsqu'ils ont reçu l'Évangile, ou plutôt après avoir reçu l'Évangile, de cette manière si puissante, ils ont connu des jours glorieux. Il nous est dit au chapitre 10, verset 32, « Souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, donc après avoir reçu l'Évangile, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Plus tard, et après, verset 34, en effet, vous avez eu la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Donc, non seulement ces hommes, ces femmes avaient reçu l'Évangile, ils avaient vu la puissance de Dieu se manifester, mais ils avaient fait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de persévérance. Et ils avaient même accepté une certaine période, lorsque ils avaient été persécutés visiblement, que leurs biens matériels, peut-être leur maison, leur possession, leur soit pris par leurs adversaires lors de cette persécution. Ils se sont retrouvés en quelque sorte sans pratiquement plus rien, sinon de leur foi en Jésus. Alors pourquoi sont-ils découragés maintenant? Peut-être tout simplement parce que lorsqu'on a beaucoup lutté, on connaît le découragement. Lorsqu'on a beaucoup lutté, on connaît des périodes difficiles parce que peut-être on n'a plus ce qui fait la raison de vivre. Vous savez, on a remarqué souvent que les gens qui s'étaient consacrés à quelque chose, qui avaient donné toute leur force à quelque chose, à une cause, quelconque, ensuite, lorsque le combat était terminé, se décourageaient ou se démobilisaient. Alors, quel va être le message de l'auteur de cette lettre aux Hébreux auxquels il a envoyé cette lettre? Le message est simple, nous l'avons lu, il a été lu il y a quelques instants. Nous tous, puisque nous sommes environnés de si grands milliers de témoins, rejetons le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Au chapitre 11, juste avant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a raconté un certain nombre d'histoires bibliques. Il a parlé d'un certain nombre d'hommes et de femmes qui avaient eux aussi connu la difficulté, mais qui avaient vaincu à cause de quoi? À cause de leur foi. On va pas lire le chapitre 11, c'est un petit peu long. Il faudrait peut-être une dizaine de minutes pour le lire, mais vous connaissez certainement ce chapitre 11, on l'appelle souvent le chapitre de la foi. Parce qu'il parle de différentes personnes, comme par exemple d'Abraham, qui a manifesté sa la croix, notamment le jour où Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice. Et vous savez que cela se faisait non pas en Israël, mais cela se faisait dans les peuples autour d'Israël, que parfois les hommes offraient leur fils en sacrifice à un Dieu qu'ils croyaient respecter et honorer. En faisant cela, le peuple de Dieu n'a jamais pratiqué ces choses. Mais lorsque Dieu avait demandé à Abraham d'offrir son fils, c'était pour tester sa foi. Je dis cela parce que les Hébreux qui ont reçu cette lettre dans laquelle nous lisons aujourd'hui voyaient leur foi testée dans ces moments de découragement. Abraham aurait pu se décourager lorsque Dieu lui a demandé d'offrir son fils. Il aurait pu se dire, je suis arrivé jusque-là. J'ai eu un fils par un miracle de Dieu. Je suis heureux maintenant parce que j'aurai une postérité. Et Dieu me demande d'offrir mon fils, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et comment vais-je m'en sortir? Alors est-ce que je peux me fier à ce Dieu qui me demande ces choses? Et Abraham a fait preuve de foi lorsqu'il s'est dit, mais même si je dois obéir à Dieu, d'ailleurs je vais obéir à Dieu, mais même si mon fils meurt, quand je l'offre un sacrifice, je crois que Dieu est capable pour le faire revenir. C'est ce que nous explique en gros le chapitre 11, le texte qui parle d'Abraham dans ce chapitre 11.
Et Abraham a donc
été vainqueur par sa foi, par sa confiance en Dieu, parce qu'il a cru que Dieu était tout puissant pour accomplir sa même qu'il devait offrir. Et il y a bien d'autres hommes qui ont fait preuve de foi. Moïse, dont je vous donne un petit peu sur Moïse tout à l'heure, Moïse a eu la foi en Dieu parce que sentant qu'il avait été à servir Dieu, bien qu'il ait été élevé par an dans le palais du Pharaon, Moïse s'est alors tourné vers Dieu et il a compris qu'il fallait mieux servir Dieu au milieu de son peuple que et de voir son peuple venir. Moïse a eu la foi, il a toujours. Et c'est par la foi ce que Dieu lui a demandé, de retourner en Égypte, qu'il a été l'éternel de Pharaon, ensuite il a mis l'ange de la mort, c'est roi des Juifs, et c'est ça. C'est par la foi qu'il est en mer rouge, avec son bâton de Moïse et comme Abraham, on transmet l'auteur d'une grande nuée. Vous n'êtes pas seul. À avoir souffert, vous n'êtes pas les premiers à connaître le courage, vous n'êtes pas la fatigue morale provoquée par ces persécutions qu'ils avaient subies, et maintenant qu'en étant les plus simples, dès qu'ils avaient loin le désir de se serrer les coudes, ou de faire confiance à Dieu, parce que quand on est dans les pas, on se tourne beaucoup plus facilement que quand tout va bien. Quand tout va bien, on a peut-être un droit à croire qu'on peut gérer les choses. On voit souvent cela, quand on ne parle jamais de Dieu, on ne pense jamais à Dieu, on ne peut jamais lui en supplier d'intervenir. Et quand il est intervenu, quelquefois on remercie au passage, quelquefois on lui-même, et puis on repart et on gère les affaires sur les Hébreux connaissaient un moment de découragement, un moment de relâchement. Premier message, vous n'êtes pas seul. Donc, avant tout, pendant les siècles passés, et peut-être qu'il aurait pu rajouter, et d'autres après vous, s'il avait su, qu'il allait y avoir encore des siècles après. Donc, autour de vous, à la limite, vous regardez, il vous voit. Certains pensent que cette image du combat qu'il envoie dans ces versets-là, cette image de la nuée de témoins, c'est un petit peu comme, vous savez que la parole de Dieu envoie souvent, et d'ailleurs dans ce passage, il y a des termes qui sont même du sport. C'est un peu comme dans une arène, et il y a, dans un stade, il y a ceux qui sont autour qui regardent. C'est la nuée de témoins, la nuée de croyants, qui au cours des siècles ont vécu des moments difficiles, et maintenant ces croyants-là regardent. Et par leur présence, par leur exemple, c'est pas qu'ils nous encouragent puisqu'ils sont au ciel, mais leur exemple est un encouragement auprès de Dieu. Premier message donc, vous n'êtes pas seul. Deuxième message, empêche la parole de Dieu de faire son œuvre en nous. Et donc de nous faire grandir dans la foi. La première, ce sont les soucis du monde. Oh, j'aurais tendance à penser que quand on est jeune comme vous, on a beaucoup de soucis. Et puis je vous dis finalement, les soucis, on en a à tous âges. Peut-être pas à 2-3 ans. Parce que le principal souci qu'on a à 2-3 ans, c'est d'avoir à manger, on a à manger, puis aller se coucher quand on est fatigué. Et puis sinon, bon, les soucis ne vont pas trop loin. Mais quand on grandit, on a des soucis. Quand on va à l'école, on a des soucis de réussir et on espère avoir de bonnes notes. Vous savez qu'une bonne méthode pour avoir de bonnes notes, c'est de bien travailler. Mais bon, parfois on a des soucis parce que même en ayant bien travaillé, on n'a pas de bonnes notes. Alors on se pose la question, mais pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire encore? Et puis au fil de la vie, il y a beaucoup d'autres soucis qui viennent. Alors ce qui est important, c'est que Jésus dit que les soucis peuvent étouffer, c'est ce qu'il dit dans la parabole du semeur, dans Matthieu et dans Luc. Il dit, les soucis, c'est comme des épines qui poussent sur un terrain et qui vont étouffer un autre terrain. Si nous recevons la parole de Dieu, nous prions qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous fasse grandir dans la foi, mais si nous laissons ces soucis prendre de la place en nous, alors ils étoufferont la parole, donc ils empêcheront de pousser et de porter du fruit. Vous savez ce que disait Martin Luther, je crois que j'ai déjà dit peut-être aussi, Martin Luther, en parlant des soucis notamment, disait, on ne peut pas, comme une image, il disait, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête. Mais ce qu'on peut empêcher, c'est qu'ils se posent sur notre tête pour y faire leur vie. Je n'ai jamais vu un homme qui s'est promené avec un nid d'oiseau sur la tête. Ce qui confirme bien ce que disait Martin Luther. Et il appliquait cela aux soucis. Nous ne pouvons pas empêcher les soucis d'apparaître. C'est humain. C'est lié à notre nature. Mais nous pouvons empêcher les soucis d'envahir notre être. La deuxième chose dont Jésus parlait, c'était la séduction de la richesse, ou je pourrais dire tout simplement l'attrait du matérialisme. Vous savez que nous vivons dans une société particulièrement matérialiste. Parfois, on le traduit autrement en parlant d'une société de consommation. Quand je regarde en arrière, je me rends compte quand même que c'est vrai depuis quelques n'y a rien de mal à se faire plaisir. Il n'y a rien de mal à devenir riche, si on le devient honnêtement. Ce n'est pas un péché d'être riche. C'est un péché de laisser les richesses s'emparer de cœur. Ce n'est pas mal de vouloir se faire plaisir de temps à autre. Le tout, c'est que le plaisir ne s'empare pas de notre cœur. Et pour revenir au premier thème que Jésus a développé, ce n'est pas un mal d'avoir quelques soucis, mais le tout, c'est que ces soucis ne nous dévorent pas. Alors, tout cela peut représenter des fardeaux qui viennent se poser sur nous et qui viennent nous empêcher d'avancer avec Dieu. Et puis, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Rejetez tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. » Le péché, donc, peut-être que les Hébreux seront des coupables, il est très simple. On n'y pense pas souvent parce qu'il ne se voit pas forcément. Je crois que le péché dont se rendaient coupables les Hébreux, c'était d'avoir perdu la foi, ou d'avoir laissé leur foi se refroidir, ou d'avoir peu entretenu leur foi. Ils ont laissé pour ça, d'ailleurs, je crois que l'auteur de la lettre, au chapitre 11, raconte tous ces exploits accomplis par les héros. Ces héros, il le dit au début, il dit que c'est par la foi qu'ils ont tous accompli leurs exploits. C'est par la foi qu'ils ont résisté au mal. C'est par la foi qu'ils ont pu vivre comme Daniel dans la fosse aux lions. C'est par la foi qui n'a pas été dévoré par les lions. C'est pas parce qu'ils étaient tombés sur des lions un peu particuliers qui étaient très gentils. Que des lions très gentils qui sont là entourant un être humain. Vous savez, on m'a dit un jour, j'ai lu dans le récit de la vie d'un missionnaire que quand on est face à un lion, ça ne peut pas être dévoré. Une chose très simple à faire. Vous savez laquelle c'est ? Bon, vous n'avez pas rencontré Lyon, moi non plus. Mais quelqu'un avait dit, c'était un missionnaire, célèbre missionnaire, David Livingstone, qui était allé en Afrique pendant la majeure partie de sa vie. Et quelqu'un, un indigène, lui avait dit un jour, un Africain lui avait dit un jour, si tu te trouves face à un lion, surtout ne bouge pas. Deviens une statue. Mais ne bouge pas. Ni une main, ni la tête, ni les pieds, rien. Reste comme une statue. Celui de Winston, ça faisait combien de temps? Le temps qu'il disparaisse. Et il lui a dit, si tu ne bouges pas, au bout d'un certain temps, le lion partira. Si tu bouges, t'es mort. Et c'est arrivé un jour. Il a vu un lion. Et parce qu'il a vu le lion, c'est arrêté de bouger. Et il restait comme ça pendant des heures. Au bout de 2-3 heures, le lion marche. Vous savez, c'est une méthode très simple. Et tout ce que si on est face à un lion, il faut l'appliquer à la lettre. Bon, je pense que nous ne risquons pas grand-chose de parler dans la région parisienne, ou même en France. Mais Daniel, pour revenir à lui, était dans la fosse au lion. Alors je ne sais pas s'il a bougé ou pas, mais je pense qu'il avait affaire à des lions normaux. D'ailleurs, si on l'avait jeté dans la fosse au lion, c'est parce que ces lions-là, on savait qu'ils allaient le dévorer. Mais que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'entre Dieu, le créateur de Daniel, et le créateur des lions, et Daniel. Parce que Dieu est maître des lions. Dieu est maître de toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Dieu est le maître de tous les ennemis, quels qu'ils soient. Si Dieu est avec nous, et si nous lui faisons totalement confiance, nous ne risquons rien. Daniel, quand il s'est retrouvé dans la fosse au lion, à mon avis, il a dû commencer à prier dès qu'on lui a dit qu'on allait le mettre dans la fosse au lion. Et lorsqu'il est descendu de cette fosse, il a fait marcher sa foi. Il s'est dit, je suis un enfant de Dieu. J'ai toujours, au moment de vie de Daniel, j'ai toujours été fidèle à Dieu. Je l'ai toujours respecté. Même lorsque je devais risquer ma vie pour le faire. Il avait toujours vécu dans la fidélité à Dieu depuis qu'il était, quand il était jeune et depuis qu'il était en exil à Babylone. et Lyon ne demandait rien. Et peut-être qu'il dit, si ma dernière heure est arrivée, eh bien qu'il me mange. Et le résultat, c'est que Daniel a survécu. Et ça a été un témoignage glorieux. Pourquoi ? Parce qu'il a eu la foi en ce moment-là. Alors bien sûr, nous pouvons dire que la foi de Daniel s'est construite au fil des années. La foi, vous savez, si demain, si vous n'avez pas la foi, et si demain vous vous trouvez par face à des lions, et c'est peut-être la méthode que je vous ai donnée tout à l'heure, de ne pas bouger, mais peut-être que ça ne suffira pas. La foi ne vient pas d'un coup. Elle s'édifie en se nourrissant de la parole de Dieu, en évitant que cette parole soit encombrée du fardeau ou du péché. Cette parole portera du fruit dans nos cœurs et notre foi ne pourra qu'augmenter, que grandir. Le péché, c'est avant tout, dans la parole de Dieu, le péché se partagera, quelle qu'elle soit, ou l'immoralité au sens pur du terme. Le péché, ce n'est pas le mal que l'on fait d'abord. Dans la parole de Dieu, le premier péché que Dieu condamne, c'est le manque de foi. C'est le manque de confiance en lui. Vous savez que le premier péché que Adam et Ève ont commis, le premier péché qui a été commis dans toute la parole de Dieu, c'est le manque de foi. Quand Satan s'est présenté à Adam et Ève, qu'a-t-il fait ? Il a simplement essayé de saper leur foi, en mettant en doute ce que Dieu avait dit. Lorsque Ève lui a répondu, je ne mangerai pas de ce fruit parce que Dieu a dit que si nous le mangeons, si nous le touchons, nous mourrons. C'était vrai. Satan lui a dit, ce n'est pas mal, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme Dieu, vous connaîtrez tout. En disant ça, Satan s'est attaqué à la parole de Dieu. Il a essayé de casser le lien qui unissait Adam et Ève à Dieu, en les poussant à mettre en doute, donc à ne plus croire, ce que Dieu avait vraiment dit. Et c'est comme cela, une fois qu'il a réussi à mettre le doute dans leur esprit, qu'il leur a donné envie de manger de ce fruit, dont ils ne croyaient plus autant qu'avant qu'il était interdit. Et c'est le premier, chronologiquement, de tous les péchés que vous avez dit, mais c'est le péché que commettent les Hébreux dans cette lettre, puisqu'on leur rappelle que c'est la foi qui compte, et que c'est la foi qui doit être le moteur de leur vie. Pourquoi ? Il est dit, rejetez tout fardeau et tout péché, qui vous enlèvera aussi facilement. Regardez à Jésus. Ayez les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi sur Jésus ? Vous me direz parce que c'est le Fils de Dieu, parce que c'est le Sauveur. Oui. Mais pourquoi ayez les regards sur Jésus ? Parce que c'est lui qui suscite la foi, c'est lui qui est le chef de la foi et le consommateur de la foi. Le texte dit exactement, c'est lui qui suscite la foi et qui la rend parfaite. Comment a-t-il fait tout cela ? Il a donné l'exemple, lui-même, dans sa vie, de ce qu'était la foi et de comment cette foi peut être parfaite dans le cœur. Tout au long de sa vie, Jésus a mis sa confiance en Dieu. Tout au long de sa vie, il a mis en Dieu sa confiance. Il a suscité la foi parce qu'en accomplissant ses actes merveilleux, en accomplissant ses miracles, Jésus a donné l'exemple de la foi. Et il a manifesté cette foi avec perfection. La Bible dit, le texte dit un peu plus loin, il a vu, il a pensé à la joie qui lui était réservée quand il aurait accompli sa mission sur terre. Il a accepté la croix et il a méprisé le ministère, il a méprisé la honte. C'est très important cela parce que cela nous montre que Jésus avait une mentalité particulière. Vous savez que dans la vie, c'est très important d'avoir la bonne mentalité. C'est très important d'avoir une bonne vision des choses. Il y a des gens qui vivent pour le bien matériel parce que pour eux, ce qui est matériel est plus important que le reste. Jésus s'était fixé une ligne de conduite. Il voulait accomplir la mission de Dieu et retrouver sa place. qu'il avait délaissé sa place au ciel pour venir se sacrifier pour les hommes. Et il savait qu'un jour il remonterait au ciel et qu'il reconnaîtrait la joie qu'il avait dans le ciel. Il a donc, sachant que cette joie lui était réservée, il a subi la croix, mais il a méprisé la honte. C'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un connaît la honte, on dit qu'il est fini. Si un homme politique dit quelque chose de scandaleux, de honteux, il a 3 chances sur 4 de voir sa carrière terminée. Vous savez, aujourd'hui, si vous dites une phrase de trop, il y a toujours un micro qui traîne, toujours un téléphone portable qui traîne, et tout se retrouve sur, comme on dit, sur la toile, et tout le monde sait tout, tout de suite. Les hommes politiques en souffrent plus de traite que d'autres, et ils savent que s'ils disent une phrase de trop, ça va leur retomber dessus, et demain leur carrière va descendre plutôt que monter. Mais voyez-vous, Jésus savait qu'à un certain moment, il allait connaître la honte de la croix. À l'époque, la croix, la crucifixion, était le mode de condamnation des criminels, le mode de condamnation des opposants au régime de l'Empire romain. Et on crucifiait souvent les gens. Dans certaines révoltes, même on crucifiait des centaines de gens, voire des milliers de gens, pour bien marquer le coup. Et bien sûr, la croix était une mort honteuse et extrêmement douloureuse. Alors Jésus aurait pu se dire, je n'irai pas, peut-être même c'est ce combat qu'il a livré dans le jardin de Gethsémané, quand il a dit, Seigneur, si cette coupe pouvait s'écouler de moi. La coupe, c'était la douleur qu'il attendait à la croix. Mais Jésus s'est repris aussitôt en disant, mais Seigneur, ce que tu veux. Parce que moi je veux. Pourquoi? Parce que Jésus a vu la croix, il a vu la honte, l'ignominie qui était attachée à la croix, et il s'est dit, il y a quelque chose de plus important encore que ça. Peu m'importe la honte de la croix. Je veux accomplir ma mission et je veux reconnaître la joie qui m'est réservée. Cela, ça s'appelle la mentalité, la bonne mentalité. La bonne mentalité, c'est celle qui nous fait regarder aux choses de Dieu et considérer comme inférieures les autres choses. C'est celle qui nous fait considérer les richesses spirituelles comme étant bien plus intéressantes que les richesses matérielles. C'est celle qui nous fait regarder à ce qui est invisible et durable et agréable à Dieu pour mépriser ce qui ne l'est pas. Et c'est pour ça que Jésus est pour nous, et je termine là-dessus, un modèle, parce qu'il peut édifier notre foi. Il peut édifier notre foi, c'est-à-dire la construire, l'aider à grandir si nous nous attachons à sa parole, si nous ne laissons pas les fardeaux, le péché s'emparer de sa parole. Et il est un modèle parce que lui-même nous a donné l'exemple pendant sa vie d'une vie parfaite, d'une foi constante et permanente. Envers Jésus, envers Dieu. Alors que Jésus soit vraiment pour nous un modèle comme il a été dans cette exhortation pour les Hébreux et qu'il puisse ne pas se lancer, que nous puissions ne pas nous lancer nous aussi de le connaître, d'apprendre à le connaître.